Merci. Je ne sais pas si c'est un socle de définition du métier. En tout cas, c'est censé être l'expression des professionnels, puisque c'est une publication de l'Association des bibliothécaires de France actuellement. Donc, il a pu sembler intéressant de rechercher comment y apparaissait le bibliothécaire pour la jeunesse dans des éditions successives. Donc, Jacques parlait de plonger dans le débat. On va d'abord plonger dans le passé et voir que les débats sont tout à fait anciens. J'ai cherché les traces de ce bibliothécaire de jeunesse. Elles sont assez difficiles à discerner. J'étais quelquefois profondément découragée parce que le bibliothécaire de jeunesse disparaissait complètement. Je crois que c'est, en même temps, ces absences sont tout à fait significatives. Donc, le métier de bibliothécaire a eu un ancêtre, publié en 1932, qui sera réédité en 1937, le manuel pratique du bibliothécaire. Il a été rédigé par Léo Creuset, conservateur à la Bibliothèque nationale, qui était mandaté par une commission désignée par l'ABF. Et dans cette commission, on est surpris de la présence de certains noms, de trouver les noms d'Ernest Coyec et d'Henri Lemaître, qui ont laissé leurs traces comme défenseurs de la modernisation des bibliothèques et promoteurs de l'accès des enfants aux établissements de lecture publique. On est surpris parce que ce manuel, lui, est dans la ligne d'une conception directement héritée du XIXe siècle qui distingue des bibliothèques d'études pour lesquelles, qui sont destinées essentiellement au prêt à domicile, des bibliothèques de lecture qui sont destinées essentiellement au prêt à domicile et des bibliothèques d'études pour lesquelles on aménage une salle de travail. Une dichotomie complète. Les étudiants sont les bienvenus. Alors là, je cite, parce que je fais pas mal de citations sur cette publication, parce que ça ne s'invente pas. Il y a un parfum d'époque qu'on est incapable de restituer si on ne le cite pas. Donc j'ouvre les guillemets. Résister à la tendance. Alors il écrit ça à propos des étudiants qui sont les bienvenus, mais résister à la tendance que l'on a trop souvent, alors préférer les archéologues locaux parce que plus calmes. Fin de citation. Et pour les collégiens, on constituera un fonds de manuel. En revanche, la présence des enfants n'est pas envisageable. Le dernier chapitre, les bibliothèques pour enfants, fait état de la création à Paris en 1924 de la bibliothèque Leur Joyeuse. Et ce chapitre concède avec beaucoup de précaution l'éventualité de la création de tels établissements, distincts bien sûr de la bibliothèque. On se gardera même, je cite, de l'établir à proximité. Les enfants doivent avoir l'impression d'être chez eux, loin d'un maître. Je cite également la dernière phrase de ce chapitre. Les limites de ce manuel ne permettent pas d'esquisser, même rapidement, le rôle de la directrice d'une bibliothèque pour enfants. On aura une idée, par les quelques études indiquées à la fin de ce livre, de ce qu'il exige d'attention, d'amour des jeunes intelligences, de compréhension des âmes et de confiance en elles. Fin de la citation. Si je puis commenter, je dirais que manifestement, il y a tant à dire que l'on ne dira rien. On admire pour mieux mettre à distance et il est d'évidence que l'on est dans un domaine dévolu à des femmes. Alors, ce manuel, même s'il est une expression de l'ABF, n'aura, dans ce qu'il préconise, pas de postérité. Il a été réédité en 1937, mais c'est plutôt du côté d'une autre publication que se dessine l'avenir. En 1931 était paru un guide du bibliothécaire amateur, sous-titré « Guide sommaire des petites bibliothèques municipales, scolaires, de société, de patronage, etc. ». Il était dû à Charles-Henri Bach, responsable de bibliothèque paroissiale protestante et militant de la lecture publique. Il est dédié, c'est extrêmement significatif, au comité américain pour les régions dévastées, qui le premier organisa en France les bibliothèques modernes. Et dans l'introduction est donnée une liste d'organismes susceptibles d'apporter aide et conseils, en tête desquels figure l'Association des bibliothécaires français. L'ouvrage énumère ensuite des conseils techniques et il apparaît au détour de l'énoncé de dispositions pratiques, cotations, formulaires d'inscription, que les enfants sont admis et leur présence est manifestement banalisée. C'est dans un chapitre intitulé « Bibliothèque enfantine » qu'est évoqué un développement avec des moyens spécifiques de cet accueil. L'heure joyeuse est mise en avant d'abord comme source de documentation et de conseils dans le choix des livres, qui est, c'est évident dans ses premières éditions, la préoccupation première. Et ces bibliothèques et ces bibliothécaires sont désignés, je cite, comme spécialisés dans la littérature enfantine. Mais l'heure joyeuse est présentée aussi comme un modèle d'organisation, donc on peut constater que l'adhésion est là, même si la mise en œuvre est encore lointaine. Donc ce guide du bibliothécaire amateur était paru un an avant le guide de l'ABF dû à Léo Crozet, mandaté, je le rappelle, par une commission de l'ABF. Ce guide du bibliothécaire amateur va changer de titre et être réédité en 1941 sous le titre qu'il aura désormais au fil de ses éditions successives, Petit guide du bibliothécaire. Cette deuxième édition comporte des ajouts. Dans le premier chapitre, rôle de la bibliothèque, on insiste sur le rôle d'éducation et de formation des bibliothécaires, donc sur une responsabilité encore plus grande vis-à-vis des jeunes lecteurs, car décisive pour leur avenir, et même le suivi des lectures de chaque enfant est préconisé. On est là dans le premier chapitre. Il y a de nouveau un chapitre spécifique qui s'appelle « Les bibliothèques pour la jeunesse », et Mesdemoiselles Gruny et Le Riche sont cités d'emblée et la présentation de l'heure joyeuse est plus complète que dans l'édition précédente. Et sous l'intitulé « Activités diverses » apparaît ce qu'on en appellera plus tard les animations. Donc on a manifestement là un souci de mise en œuvre effectif. Il est énoncé 10 points pour désigner les problèmes que pose l'organisation d'une bibliothèque pour la jeunesse. Figure en 10e position le point intitulé « Qualification professionnelle du bibliothécaire pour enfants ». Malheureusement, cette indication laconique n'est pas développée. Enfin, dans les annexes qui abordent des dispositions pratiques, mention est faite de l'éventuel aménagement d'un coin pour les enfants et à propos du mobilier, une remarque pour indiquer que les enfants préfèrent les tables rondes. Donc on voit que le modèle commence à s'inscrire dans la réalité. Cette présence des enfants en 3 séquences dans les manuels professionnels, énoncé de principe dans une introduction générale, puis chapitre spécifique, enfin indication allusive dans les annexes techniques, se retrouvera jusqu'en 1974. Un pas est franchi avec la 3e édition du Petit Guide du bibliothécaire en 1948. Pour cette 3e édition, Charles-Henri Bach est rejoint par Yvonne Audon, bibliothécaire au Musée de l'Homme, ancien membre de l'Association pour le développement de la lecture publique et à cette date secrétaire générale adjointe de l'ABF. Dans un premier chapitre, rôle et fonction de la bibliothèque publique est réaffirmée la priorité à donner aux jeunes publics, avec un moyen, la création d'une section enfantine et d'une section destinée aux adolescents, qui n'est pas présentée comme une éventualité qui est posée au même titre sur un plan d'égalité. Ceci est développé dans un chapitre « Bibliothèque pour la jeunesse ». L'existence d'un coin est présentée comme un minimum et c'est une offre très développée qui est prônée avec l'heure joyeuse comme référence. La modélisation a fonctionné et a pris la forme de sections intégrées. C'est vraiment un tournant. Qu'il s'agisse d'enfants ou d'adolescents, l'accent est mis sur des compétences particulières attendues du bibliothécaire. Je cite « On ne s'improvise pas bibliothécaire, surtout bibliothécaire pour enfants. Il ne suffit pas d'aimer les enfants et la lecture, il faut avoir appris comment faire aimer la lecture aux enfants. » Fin de la citation. Le choix des livres pour enfants exige, j'ouvre de nouveau les guillemets, une connaissance profonde de la psychologie enfantine et des différents groupes et milieux sociaux auxquels les jeunes lecteurs appartiennent. En ce qui concerne les adolescents, il faudra que le bibliothécaire soit averti des besoins et des intérêts particuliers à cette catégorie de lecteurs et qu'il sache s'en faire des amis. Nous sommes en 1948. Toujours dans ce paragraphe sont évoquées ce qui est appelé des activités spéciales, qui ont leur place dans le programme régulier d'une bibliothèque enfantine. Exposition organisée avec le concours actif des enfants, fabrication d'albums d'images sur les sujets les plus divers et l'heure du conte. Et là, nous retrouvons la bibliothécaire, je dis bien la bibliothécaire, fidèle au poste depuis l'édition de 1941. La constance est une vertu féminine. Cette édition marque une autre évolution. On voit que la bibliothèque adulte subit l'influence d'innovations qui sont parues avec les sections enfantines. On le voit dans le chapitre suivant, « La bibliothèque et le lecteur », où apparaissent des pratiques de médiation active et d'invitation à participation. Elles ne sont pas nommées « activités particulières » comme dans le chapitre consacré aux bibliothèques pour les jeunes. Elles ne sont pas nommées du tout, mais elles sont énumérées « clubs de lecture »,« conférences »,« discussions appuyées », »,« de choix de documents ». Donc on a là une migration d'activité qui est aussi un transfert de compétences qui se fait de la section enfantine et des professionnels qui animent la section enfantine vers la section adulte. Une autre évolution est remarquable dans ce fonctionnant dans ce sens-là, de la section enfantine vers les sections qui accueillent les adultes. C'est un souci de confort de lecture qui est sans doute lié aussi à mettre en relation avec une réflexion sur l'ergonomie qui est née avec l'accueil des enfants. Pour les éditions suivantes, de la 4e en 1952 à la 7e, il sera repris à l'identique les chapitres qui nous ont intéressés. Ne bouge que la bibliographie où apparaissent les noms de Nata Caputo et de Marc Soriano. La 8e et dernière édition de ce petit guide paraîtra en 1970, toujours à l'identique. Mais on remarque, ou plutôt on a toutes les chances de ne pas remarquer, dans le chapitre « Les bibliothèques pour la jeunesse », un ajout à la note qui était devenue rituelle, qui donnait les coordonnées de leur joyeuse, note où l'on conseillait de s'adresser directement à eux, cette simple mention qui tient en une ligne, donc je rappelle, nous sommes en 1970, voir également l'organisation La Joie par les livres, Paris, 59 avenue du Maine. Rappelons qu'en 1965, la bibliothèque des enfants animée par l'association La Joie par les livres et dirigée par Geneviève Pat avait ouvert ses portes à Clamart. Et en 1966 était parue la première édition du cours élémentaire de formation professionnelle. Il connaîtra 5 éditions jusqu'en 1977, avant de devenir, avec sa 6e édition en 1979, le métier de bibliothécaire. Ce cours élémentaire de formation professionnelle, dactylographié puis imprimé en 1974, est le support d'une formation assurée par la section des bibliothèques publiques de l'Association des bibliothécaires français. Dans cet ouvrage collectif, nous trouvons un chapitre qui s'intitulera successivement « Les bibliothèques enfantines »,« Les bibliothèques d'enfants », »,« Les bibliothèques pour enfants », »,« Les bibliothèques des jeunes ». Dans les 4 premières éditions, ce chapitre est confié, je cite, à Mademoiselle Pat, bibliothécaire de La Joie par les livres à Clamart, puis Geneviève Pat, directrice de l'association La Joie par les livres, bibliothèque d'enfants Clamart, enfin Geneviève Pat, conservateur chargé de la direction de La Joie par les livres, et dans la 5e et dernière édition, aucun nom n'apparaît. Dans les premières éditions, c'est dès le premier chapitre, notion générale sur la lecture publique, qu'est donnée comme principe la nécessité de créer des bibliothèques d'enfants. Et dans les filières de formation, le CFB est cité et l'option bibliothèque d'établissement d'enseignement et de bibliothèque pour la jeunesse est mentionnée. Dans le chapitre spécifique, donc après ce premier chapitre, un énoncé de principe encore une fois, dans le chapitre spécifique intitulé « Les bibliothèques enfantines », nous trouvons un historique où est évoqué le rôle de leur joyeuse, une typologie des bibliothèques pour enfants, et cette typologie tient en 3 points, la bibliothèque uniquement réservée aux enfants, ensuite la section enfantine d'une bibliothèque publique, ce qui est la formule qui fait l'objet d'une préférence marquée parce qu'est-il dit, elle a l'avantage de faciliter le passage à l'âge adulte. Et enfin, troisième type possible, la bibliothèque enfantine au sein d'un centre de loisirs. Dans ce chapitre, les bibliothèques enfantines, dans la première édition, on trouve aussi des conseils d'organisation et de fonctionnement qui donnent une part importante à ce qui est toujours désigné comme des activités diverses. Je cite ce passage qui est un peu long, mais qui est vraiment l'expression de ce que souhaite transmettre Geneviève Pat dans ce cours de formation professionnelle. La tâche première du bibliothécaire est de mettre à la disposition des lecteurs un nombre minimum de livres bien choisis. Pour s'efforcer de donner le goût de la lecture, pour permettre à l'enfant d'évoluer dans ses lectures, pour lui apprendre à se documenter, le bibliothécaire organise diverses activités. Elles doivent être reliées à la lecture. Les activités traditionnelles sont l'heure du conte, l'heure du livre d'images, les expositions. On peut, en fonction du personnel dont on dispose, organiser toutes sortes de clubs selon l'intérêt des enfants. Et la dernière phrase me semble extrêmement significative et s'inscrire tout à fait dans notre sujet. L'heure du conte et l'heure du livre d'images sont des activités régulières. Elles demandent de la part du bibliothécaire un long apprentissage. Enfin, pour terminer ce chapitre, sont abordés les rapports avec l'école et les parents. Ce chapitre sera pratiquement repris à l'identique dans la suite des éditions jusqu'à la cinquième incluse. Notons simplement dans la quatrième édition en 1974 que dans les chapitres généraux, mention est faite dans les formations professionnelles des cours du soir organisés par l'association La Joie par les Livres sur les livres pour enfants depuis 1969. Toujours dans cette quatrième édition de 1974, aux différents types de bibliothèques pour enfants, on a vu qu'on en désignait trois, s'ajoute un quatrième, les bibliothèques au sein des établissements scolaires. La cinquième édition, en 1977, qui paraît sans aucun nom d'auteur, apporte quelques changements significatifs. Le chapitre introductif ne comporte plus d'exhortation à la création de sections enfantines. Donc c'est là où nous perdons cette structure en trois points. Importance marquée de la création d'une offre pour les enfants dans un premier chapitre général, ensuite un chapitre spécifique et enfin des mentions allusives dans les annexes techniques ou dans le chapitre consacré par exemple au mobilier ou à l'organisation. Donc là, plus d'exhortation dans le chapitre introductif, on considère sans doute que c'est acquis, on est en 1977. Le chapitre spécifique s'intitule « Les bibliothèques des jeunes 4-14 ans ». On trouve dans la typologie des bibliothèques des jeunes cette précision à propos des bibliothèques uniquement réservées aux enfants qui sont citées, L'Heure Joyeuse à Paris, la bibliothèque de la joie par les livres à Clamart. Je cite « Cette formule se justifie uniquement par un rôle expérimental que la joie par les livres assume depuis 1965 ». Et surtout, ce qu'on constate dans cette cinquième et dernière édition, c'est que l'animation dans les bibliothèques est traitée dans les bibliothèques des jeunes est traitée dans un chapitre général, tout en faisant l'objet de considérations particulières. Ainsi, il est indiqué qu'il est préférable qu'elle soit le fait des bibliothécaires pour enfants, après qu'ils aient, au besoin, suivi une formation complémentaire. Parce que, je cite, « les bibliothécaires ont un rôle formateur important et des contacts humains irremplaçables se créent autour des différentes activités ». Notons que jusque-là, le seul domaine qui concernait les enfants était traité dans un chapitre plus large était, comme je l'ai dit, le chapitre mobilier ou bien des annexes techniques. Et si on reprend le chapitre mobilier depuis les éditions antérieures, on trouve une remarque qui est toujours là en 1977. La plupart des enfants qui fréquentent la bibliothèque savent lire. Ils ont donc au moins 5 ou 6 ans et il ne faut pas leur donner un mobilier pour petits. Cette contradiction interne au manuel perdurera jusqu'en 1992, alors que dans ce même manuel, l'âge de référence dès 1969 s'est abaissé de 4 à 4 puis à 2 ans en 1983. Les bébés lecteurs n'arriveront dans le métier de bibliothécaire qu'en 1996. À cette date, donc on est à la cinquième édition de 1977, dernière édition du cours, le cours élémentaire de formation professionnelle devient le métier de bibliothécaire, cours élémentaire de formation professionnelle. Il s'inscrit vraiment dans la suite du cours élémentaire de formation professionnelle et prend directement le numéro 6 dans cette continuité. Donc la première édition du métier de bibliothécaire s'intitule 6e édition, puisque le cours de formation professionnelle est pris en compte. Donc le métier de bibliothécaire, 1979, et nous en sommes à 2010. En 1979, donc cette sixième édition, première édition du métier de bibliothécaire sous ce titre-là, le traitement de l'accueil des enfants se distribue en plusieurs chapitres. Dans le chapitre 1, le livre et les bibliothèques, qui est un chapitre tout à fait général, il donne des points de repère historiques. Et par ailleurs, mention est faite du rapport du groupe de travail chargé d'élaborer un plan de développement de la lecture publique qui avait été réuni à la demande de Georges Pompidou et qui avait conclu, entre autres, à l'impérieuse nécessité de généraliser les sections enfantines dans les bibliothèques de lecture publique. Ça, c'est dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, administration des bibliothèques publiques, la bibliothèque pour enfants, apparaît à travers La joie par les livres de Clamart, qui est présentée comme bibliothèque pilote d'État, assurant en outre une fonction supplémentaire de formation professionnelle initiale et continue des bibliothécaires, tant par l'enseignement que par l'accueil des stagiaires. Et signaler également le centre de ressources et de documentation rue de Louvois qui a été créé par La joie par les livres. Si nous continuons dans cette édition, nous voyons apparaître dans le chapitre « Autres bibliothèques publiques » un paragraphe consacré aux bibliothèques des jeunes. L'animation n'y est pas traitée. Probablement, l'auteur de ce chapitre pensait, et on voit là où peuvent être les écueils d'un ouvrage collectif, que ce qui concerne l'animation des jeunes serait traité dans le chapitre général sur l'animation. Manifestement, l'auteur du chapitre général sur l'animation n'en a pas tenu compte, et l'animation pour les enfants n'apparaît pas du tout. En revanche, ce qui apparaît dans cette première édition du métier de bibliothécaire et qui est extrêmement significatif, c'est dans le chapitre sur l'audiovisuel, on voit apparaître un accueil transgénérationnel, donc dans un secteur spécialisé par support, en l'occurrence la discothèque de Prêt. Il est fait allusion à la sélection de documents sonores pour les enfants et il figure une photographie de discothèque accueillant des enfants. Mais cela n'est pas souligné, pas plus que ne l'était dans le guide du bibliothécaire amateur de Charles-Henri Bach en 1931, la présence d'enfants dans la bibliothèque parmi les adultes, accueillis avec les adultes. Il semble que dans ces deux cas, on constate un mouvement naturel dont les implications ne sont pas commentées. Là, on est donc dans le chapitre sur l'audiovisuel, on n'est pas dans le chapitre sur les bibliothèques pour la jeunesse. Septième édition, ou deuxième, 1983, pas de changement, si ce n'est l'apparition d'un chapitre sur les bibliothèques en milieu scolaire. En 1988, huitième édition, donc dans la suite, deux choses à noter. Dans le premier chapitre, livre, lecture et bibliothèque, figure dans un paragraphe pour un projet de bibliothèque, de médiathèque publique, pardon, la bibliothèque publique présentée comme un lieu de lutte contre les exclusions, pour le pluralisme et pour la convivialité. Et il y est valorisé la rencontre des usagers entre eux, par-delà les générations. Il n'y a pas, dans cette édition de 1988, de chapitre consacré aux bibliothèques pour la jeunesse. Et curieusement, comme si elle n'avait pas trouvé place ailleurs, l'histoire de la lecture publique pour les enfants est évoquée dans le paragraphe consacré aux bibliothèques scolaires, comme étant en quelque sorte leur ancêtre. 1992, 9e édition, aucun changement. 1996, 10e édition, les jeunes... semblent s'être fondus dans le décor, ils ont disparu, sauf sous les espèces du groupe de scolaires. Il y a néanmoins deux exceptions dans cette édition où l'on voit apparaître des enfants ou des jeunes. Les bébés lecteurs, donc là il faut aller dans le chapitre mobilier et décoration, où on apprend qu'on achète des coussins pour les bébés lecteurs. C'est la seule mention que j'ai pu trouver. Et d'autre part, apparaissent aussi, promis à un bel avenir, les adolescents chahuteurs dans la partie consacrée à l'accueil du public. Sous le titre « Engageant le contrôle des groupes d'adolescents », je cite « Ce type d'accueil, y compris dans ses aspects répressifs, doit être le fait de tous les agents opérant en service public ». Donc on trouve là une préconisation qui reprend la volonté de charge partagée et collective. Passons à la 11e édition en 2003. la 11e édition marque un tournant. Elle marque le retour d'une réflexion méthodique, alors que là, on en était arrivé à des traces éparses. La 11e édition marque le retour d'une réflexion méthodique sur le public des jeunes et sa prise en compte. Sous forme d'encadrés. Des encadrés, comme si dans l'espace du livre, on pouvait ressaisir et organiser des éléments qui, dans la réalité, sont devenus épars, complexes, imprévisibles. Trois encadrés, le premier, les publics jeunes, le deuxième, les bibliothèques, l'enfance et la jeunesse, le troisième, la joie par les livres. Premier encadré, les publics jeunes, donne des éléments d'une étude sociologique sur la composition du public des jeunes et ses fréquentations. Le deuxième encadré, les bibliothèques, l'enfance et la jeunesse, pointe plusieurs difficultés. J'en ai noté quatre. Première difficulté, le public doit être pris en compte dans sa diversité. Petite enfance, 7-12, pré-ado, ado, mais en évitant la segmentation. Deuxième difficulté, la connaissance et l'expertise de la littérature de l'édition pour la jeunesse et l'enfance, compétence majeure, je mets des guillemets à compétence majeure, des bibliothécaires de jeunesse, doit compter avec la présence d'autres intervenants et intégrer des offres nouvelles en cohérence avec les autres sections de la bibliothèque. Troisième difficulté, dans les politiques partenariales qui se mettent en place, les bibliothécaires pour la jeunesse ont à définir leur rôle. Quatrième difficulté, la dernière que j'ai notée, s'exprime le regret qu'une formation initiale spécifique ne fonde pas une culture professionnelle commune et cela se traduit par l'absence des bibliothécaires pour la jeunesse dans les grands débats communs à l'ensemble de la profession. Nous sommes, je le rappelle, dans la 11e édition de 2003. Le texte de cet encadré est symptomatique d'inquiétude en termes de public, d'offres, de fonctions et de formation qui va jusqu'à déplorer un effacement, voire une absence. En regard, le troisième encadré, la joie par les livres, présente peut-être des perspectives encourageantes. L'histoire de la joie par les livres est retracée, en particulier son rôle dans la formation des bibliothécaires pour la jeunesse. Et dans le contexte de 2003, le contexte de cette 11e édition, l'étape de 1971 qui marque l'implication de l'État dans la joie par les livres prend toute sa signification. En conclusion de cet encart, sont demandés les moyens qui permettraient à la joie par les livres de développer ses missions au service des bibliothécaires et autres professionnels de la lecture. Comme en écho, dans le chapitre abordant les dispositifs encadrant la profession de bibliothécaire, sont cités, proposant des formations continues spécialisées en jeunesse, la joie par les livres, lecture jeunesse et l'Institut Charles Perrault. J'en arrive à la dernière édition qui est parue cette année, la 12e donc. Cette édition souligne la complexité et l'imprévisibilité du contexte général dans lequel s'inscrit la bibliothèque, mais ne condamne pas pour autant le bibliothécaire au fatalisme et à la passivité. Dans la partie consacrée aux bibliothèques françaises aujourd'hui, un encadré, nous sommes maintenant sous le signe de l'encadré quand il s'agit des bibliothèques pour la jeunesse, donne des nouvelles de la joie par les livres, devenu service de la Bibliothèque nationale de France sous le nom « Le Centre national de la littérature pour la jeunesse – la joie par les livres ». Un deuxième encadré figure dans cette édition « Enfance et jeunesse en bibliothèque ». En premier lieu, il fait l'historique de l'offre de livres pour les enfants dans le cadre des bibliothèques publiques françaises, puis, je cite, du double mouvement de spécialisation et de professionnalisation et de son état actuel. Sont énoncés comme fondement d'une identité la connaissance approfondie du livre pour enfants, l'analyse systématique de la production spécialisée, les exigences propres de l'accueil des enfants et la complémentarité avec l'école, ainsi que les référentiels communs au métier de bibliothécaire pour la jeunesse, qui sont des revues et des événements. En face, si je puis dire, le bibliothécaire pour la jeunesse aura à faire avec l'éventail des dispositifs, la diversité des charges et la recherche de la polyvalence des personnels, qui oblige les bibliothécaires pour la jeunesse à développer une nouvelle aptitude, savoir s'adapter. Ce n'est pas M. Perrin qui me contredira. Et qui contredira le rédacteur de cet encadré. Mais il est frappant de constater, quand on lit cet encadré, combien la composante historique est importante. Elle est présente en exergue et elle ouvre, en conclusion provisoire, une perspective qui est celle des projets de conservation partagée des fonds jeunesse patrimoniaux. Il y a peut-être là un paradoxe, puisque l'on boucle sur l'histoire et la primauté donnée aux collections. Mais ne serait-ce pas l'occasion de refonder une identité et une cohésion autour d'un patrimoine commun à défendre. Je quitte la 12e édition où vous retrouverez cet encadré que je citais brièvement, et en conclusion, je me demande ce que nous pouvons retenir au terme de cette recherche, qui, encore une fois, est extrêmement lacunaire, puisque je me suis contentée de chercher les traces, les présences qui, vous l'avez vu, sont extrêmement inégales. À l'origine, aux origines, on est presque dans le mythe, les figures fondatrices et tutélaires de Marguerite Gruny et Mathilde Le Riche, qui se prolongent longtemps dans l'image de la bibliothécaire lisant à des enfants. Puis l'écriture de Geneviève Patte, viatique à un moment décisif. Mais au-delà, nous n'avons trouvé ni portrait en pied, ni portrait de groupe, plutôt un portrait en creux qui devient fragmentaire et instable. Avec la dernière édition, je ne pense pas solliciter le texte en disant cela, une réaffirmation s'esquisse, et de toute façon, je pense que l'organisation de cette journée en témoigne.